Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Bien, que dit la loi congolaise sur les dédoublements des associations? Les dédoublements des associations est une réalité à RDC. Suite à une mésentente, certains membres peuvent quitter une association pour en créer une autre avec la même dénomination. Il peut s'agir d'un parti politique, d'une église, d'une ONG, d'un orchestre, voilà, bref, d'une ASBL, voilà. Et les dédoublements créent souvent la confusion. Alors, qu'est-ce que la loi dit à ces sujets? Maître Charles Amouchizi est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi les dédoublements? Quand on parle des dédoublements des associations, comment la loi définit cela?
Oui, il y a de plus en plus dans notre société des associations ou des organisations politiques, des partis politiques qui portent le même nom. La loi prévoit justement que cela soit prohibé parce que le nom fait partie de l'identification, d'une identification exclusive, tout particulièrement pour ce qui est des personnes morales. Par personne morale, je vois les entreprises, les sociétés commerciales, les établissements d'utilité publique, les écoles, les associations sans but lucratif, etc., les églises notamment. Et donc, la loi prévoit que toute personne morale qui porte un nom soit habilitée à le protéger parce que ce nom fait partie de son identification exclusive. Pour ce qui est des entités commerciales, le nom fait partie du fonds de commerce même. Vous imaginez par exemple qu'une autre société s'ouvre juste à côté de Beltesco et s'appelle Beltesco. Mmh. Parce qu'il y a des clients qui s'attachent au produit Beltesco simplement parce qu'il s'agit de Beltesco et ils sont...
À cause du nom.
Exact. Donc le nom, pour ce qui est des entités commerciales, fait partie du fonds de commerce de ces entités. Et donc, pour ce qui est particulièrement des associations à sans but lucratif, des partis politiques, il s'agit plutôt d'un besoin de garder l'ordre public. Et la loi ne permet pas qu'une nouvelle association emprunte un nom existant et appartenant déjà à une autre association. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque, par exemple, pour les associations sans but lucratif ou pour les partis politiques, il est demandé un agrément ou l'obtention de la personnalité juridique, une enquête préalable est conduite par des directions spécifiques appartenant aux secrétariats généraux de ces deux ministères, oui, pour éviter justement qu'il n'y ait pas dédoublement, qu'il n'y ait pas cette triche et qu'il n'y ait pas télescopage en termes de aura, de valeur, de l'image de marque que couvre ce nom.
Parce que prenons par exemple les cas des partis politiques, parce que les débats actuellement, au niveau du Parlement, prenez par exemple, c'est les dissidents qui quittent un parti, ils peuvent dire, voilà, on était parmi les fondateurs, nous sommes aussi les membres fondateurs, donc on a les droits de partir avec ces noms-là.
Bon, il faut déplorer plutôt que la loi du 20 juillet 2001 ne clarifie pas ces situations, mais il est évident du point de vue des principes généraux de droit que lorsque ces dissidents quittent un parti existant, ils ne peuvent plus créer un parti avec la même dénomination. Vous vous rappelez justement que cette question a été clairement réglée à l'époque par le ministère de l'Intérieur pour ce qui était des dissidents de l'UDPS et qui sont partis créer ce qu'on a appelé l'UDPS Kibasa. Et donc c'était déjà en ajoutant cela faire une nette différence avec l'UDPS qui était alors dirigé par Monsieur Tshisekedi Omulumba. Et donc c'était simplement pour clarifier déjà qu'il ne s'agissait plus du même parti, pour ne plus créer la même confusion et pour que les adhérents, les membres, aient une claire définition du mouvement auquel ils adhèrent.
Voilà, d'après la loi, donc on ne peut pas retrouver la même appellation pour
deux. Il n'est pas possible parce que le nom fait partie d'une identification exclusive de la personne morale à laquelle il appartient.
Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Alors, comment est-ce qu'on peut protéger le nom? Vous avez dit que le nom fait partie de l'identité, de l'identification d'une personne ou d'une personne morale. Alors, comment le protéger?
Oui, la loi prévoit, les principes sont logés plutôt dans l'ordonnance loi de 81 qui porte le code de la famille pour ce qui est des articles 50 à 78. La loi prévoit justement que le propriétaire d'un nom puisse aller en justice pour le protéger, pour le défendre contre tout abus. Et, en principe, pour ce qui est des marques, par exemple, la protection est déjà consacrée au niveau du ministère qui a la culture dans ses attributions et qui vous donne justement un document qui couvre votre propriété exclusive plutôt à ce nom-là. Et donc, il faut considérer que lorsque vous voulez créer une société, une association, une entreprise, etc., vous devez d'abord recourir auprès de l'administration du ministère ayant les attributions du domaine de votre intervention pour que ce ministère, cette administration, fasse une enquête préalable de voir s'il n'existe pas déjà...
Généralement, pour les ASBL, c'est le ministère de la Justice qui s'en
occupe. Le ministère de la Justice. Il y a une direction des associations de culte et de culte plutôt, qui fait ces enquêtes pendant 6 mois avant de permettre au ministre de signer un arrêté qui vous octroie une personnalité juridique. Parce que dès que vous avez une personnalité juridique, l'arrêté consacre justement votre dénomination comme une dénomination exclusive. Et vous êtes en droit de la défendre en tout état de circonstance lorsque il y a une autre association qui s'affiche avec le même nom. Le principe ici sur lequel la justice se penchera, c'est celui de l'antériorité. Ça veut dire laquelle des deux associations a été enregistrée la première. Et donc, celle qui a été enregistrée la première sera préférée du point de vue du port de la dénomination.
Et par concernant les partis politiques.
Oui,
c'est toujours le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur?
Ici, c'est le ministère de l'Intérieur et c'est l'administration d'abord qui fait cette enquête-là. En fait, l'administration conduit toutes les enquêtes préalables pour établir s'il n'y a pas un autre parti portant le même nom et a fait une proposition d'arrêter au ministre de l'Intérieur qui est justement chargé d'octroyer la personnalité juridique. Donc, on n'appelle pas ça la personnalité juridique, mais d'agréer un arrêté d'agrément.
Oui.
Exact. Pour que justement ce parti commence à fonctionner. C'est dommage que sur plan de considération purement politique ou même politicienne, aujourd'hui pour affaiblir tel ou tel acteur politique, ces genres de pratiques reviennent à la surface et avec force, il faut le déplorer. Parce que, pour tout dire, c'est attentatoire à l'ordre public.
Voilà. Et quand il y a deux ASBL ou partis politiques qui portent les mêmes noms, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
En principe, il doit y avoir un recours administratif déjà auprès de l'autorité qui a pris l'arrêté octroyant le deuxième agrément. Et si ce recours n'arrive pas à porter des fruits tels que le voudrait le demandeur, il peut aller en justice justement pour faire annuler l'arrêté qui octroie une deuxième dénomination, la même que la première. Et comme je l'ai dit ici, le principe de l'antériorité est celui sur lequel la justice va se baser en disant oui, cette association ou ce parti politique a obtenu son arrêté bien avant cet autre et donc il a la préférence de garder la dénomination quitte à l'autre de changer.
Voilà. Et j'avais dit tout à l'heure ici, l'autre partie dit estime que voilà, elle ne peut pas changer parce que ses membres font partie des fondateurs de l'association.
La qualité de personne qui fonde l'association ou le parti politique n'influe pas. Elle est inopérante pour ce qui est de la protection du nom. Parce que là, nous sommes en présence d'une personne morale et qui a fait, qui offusque les personnalités des individualités qui ont mis en place cette personnalité morale. Et cette personnalité morale a sa personnalité juridique sur base de laquelle elle peut être demandeur ou défendeur devant la justice.
Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Nous parlons des dédoublements des associations, des partis politiques, des ONG, églises et autres. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-6394.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, nous avons Aline Malonga des Bandundouville. Bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à notre invité.
On vous écoute Malonga.
Ok, merci beaucoup. C'est un très bon sujet puisque c'est le sujet qui agite dans notre pays. Bon, je veux demander ceci. Est-ce qu'il ne peut avoir, les associations qui sont anonymes, hein? Par exemple, moi, je suis le cofondateur ou bien le fondateur d'une association. Par exemple, ici chez moi, j'ai mon association ACACO, Malonga travaille au Congo. Alors, si plusieurs compatriotes s'adhèrent à ça, et ils aiment les actions, les projets, tout ça, ils progressent. Ils font développer cette association. Mais moi, je vois que l'allure que mes frères ou que mes confrères commencent à faire, en tout cas, je ne suis pas encore d'accord avec ça. Moi, je me retire avec mon association. Ma dénomination, je reste avec ça. Et aussi, ils restent avec ça. Moi, je garde ça puisque c'est moi le fondateur. Et aussi, ils gardent puisqu'ils se sont associés et ils progressent convenablement. Est-ce qu'il y a, il y a un problème grave là-bas?
Merci Malonga, qui a son association dénommée Matraco. Malonga travaille au Congo, il a recruté d'autres personnes, mais après il se rend compte que ils ont dévié des objectifs peut-être qui s'étaient assignés. Alors il décide en tant que fondateur de se retirer avec son nom, avec sa dénomination.
Il faut faire une différence entre une personnalité morale et une personne physique. Une personne physique qui a créé une personne morale ne peut pas se confondre justement à cette personne morale. La personne morale existe indépendamment et sans possibilité de confusion avec par rapport à la personne qui l'a créée. Mais ici, il faut faire une différence. Lorsqu'il s'agit par exemple des établissements d'utilité publique, la loi considère que c'est plus ou moins une propriété de l'individu qui l'a créée, qui a mis en place toutes les garanties de son fonctionnement, etc., etc. Quitte à mettre en place ultérieurement en interne, les règles, les procédures de fonctionnement qui établissent aussi clairement les questions de responsabilité de faute. Et donc, chasser les personnes d'une association qu'on a créée relève plutôt d'une procédure purement disciplinaire en interne et qui n'a rien à voir avec la personnalité juridique de l'entité qui existe.
Mais s'ils se rendent compte qu'ils ont pris en otage l'association et que ce n'est plus ça, ils ne poursuivent plus les objectifs qui se sont assignés au départ.
La loi ne prévoit pas de possibilité où des personnes peuvent prendre en otage une structure en interne. La loi considère qu'une structure doit être créée conformément aux principes qu'elle établit et qui doit fonctionner sur base des principes clés qu'elle établit, mais aussi des principes qui sont mis en place en termes de règlement intérieur. Tous les statuts de toutes les associations ont déjà des mentions qu'elles ne peuvent pas n'est pas intégrer dans leur dans leur sein. La loi notamment de 20 juillet 2001 qui pose ces principes dit que les statuts doivent avoir un certain nombre de rubriques et ils ne peuvent pas s'en départir. Et donc lorsque vous avez créé déjà une association, elle devient différente de vous-même. C'est une entité juridique, un acteur de droit qui a sa personnalité juridique,
une qui peut se défendre. Elle est indépendante, elle n'est pas liée à votre
personne.
Elle
peut se défendre elle seule. Et donc, une personne ne peut pas dire, oui, j'ai créé, j'ai obtenu un arrêté consacrant la personnalité juridique pour une association que j'ai créée. Alors, c'est ma chose, c'est mon bien. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, la loi dit clairement que le patrimoine de l'association est différent des patrimoines des individus qui l'ont constitué.
Nous avons en ligne Bienvenue Louya de Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Bienvenue?
Bonjour. C'est par rapport au sujet du jour. Il est tellement intéressant et je n'irai pas plus loin pour prendre beaucoup d'exemples. Je prends l'exemple des G7 qui étaient de la majorité. On a vu il n'y a pas longtemps, ils sont maintenant dans l'opposition. Et dans nos partis politiques congolais, nous savons situer, même dans tous les partis politiques du monde, chaque parti se situe par rapport à son autorité morale, ou soit au fondateur qui a signé au nom du parti. Et j'ai suivi le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, qui a clamé haut et fort, pendant qu'il était interpellé à la chambre basse du Parlement, il a dit, lui n'a jamais signé aucun agrément pour les partis doublant des G7. Mais si vous vérifiez avec moi, dans les différents gouvernements provinciaux qui viennent d'être installés, vous trouverez les membres, par exemple, d'ACO, à l'avenir du Congo, ARC, les partis dédoublés et ils ont réussi ces postes au nom de la majorité présidentielle. Alors, je ne sais pas. Dans ces cas d'espèce, et ces partis rebelles qui sont aujourd'hui de la majorité défilent avec le PPRD pendant les différentes cérémonies qu'ils organisent au niveau de MP. Alors, devant cette... Et l'année passée, lorsqu'on est allé déposer les candidatures des députés provinciaux, je vous dis des choses que je maîtrise bien. Il y a des candidats qui sont aujourd'hui divisés. Ceux-là qui disent que nous restons fidèles à nos autorités qui sont parties au G7 du côté de l'opposition, et vous trouverez parmi ces candidats qui sont aujourd'hui de la majorité.
Oui, mais là, quelle est la question, Bienvenue?
La question, ce que je veux savoir, si aujourd'hui les autorités de toutes les autorités de G7 qui sont aujourd'hui à l'opposition écrivaient à la CENI pour invalider les candidatures des gens qui sont aujourd'hui à la majorité, que dira le ministère de l'Intérieur, y compris le ministère de la Justice, puisque vous avez cité les deux ministères concernés, que diront-ils? La justice congolaise va trancher au profit
d'accord, on a compris.
Des G7 oui. Opposition ou des G7 majorité.
Merci. Junior, vous êtes en Boujimaï, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, je vous remercie.
Quelle est votre question, Junior?
Ma question, c'est ceci.
Oui. Allez-y, on vous écoute.
Junior? J'ai bien suivi la question.
Oui, vous nous appelez, nous parlons aujourd'hui du dédoublement des associations. Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces thèmes? Voilà, Junior, je crois qu'il y a des petits soucis de communication. Maître Charles, vous avez suivi la préoccupation des bienvenus, Louis avec Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je comprends bien l'inquiétude de Monsieur Bienvenu et je voudrais continuer sur fond de mon argumentaire de tout à l'heure. Il faut que les personnes apprennent que lorsqu'elles créent une association, qu'elles lui font doter d'une personnalité juridique, cette personne morale existe indépendamment de leur créateur. Ça c'est un. Et lorsque ces associations ou ces partis politiques sont créés, la loi prévoit les rubriques qui ne peuvent pas manquer dans l'acte constitutif ou en fait les statuts. Et lorsque par exemple vous allez au ministère de la Justice pour demander la personnalité juridique en faveur de votre association, la direction des cultes et associations vérifie toujours la question de mandat, toujours la question des organes. Parce que toutes les associations ne peuvent fonctionner que sur base d'organes et des compétences clairement établies en interne. Maintenant qu'il y ait eu des personnes qui ont fait dissidence par rapport à un certain nombre de partis, il faut bien voir sur base de quelles décisions ils sont partis. Et ce sont les organes compétents de l'association qui ont décidé de la dissidence de qui a été
généralement
constatée.
Généralement, c'est l'Assemblée Générale.
Oui, ça dépend. Chaque organisation a ses organes compétents qui établissent et qui statuent sur ces questions-là.
Généralement, et donc, l'Assemblée Générale est souveraine.
Oui, je comprends bien qu'un groupe de 7 personnes, d'ailleurs c'est comme cela qu'il s'appelle G7, ait fait dissidence avec la majorité, mais est-ce que c'était leur parti respectif qui avait quitté ou c'est parce que eux s'identifiaient directement à leur parti politique? Ça c'est une erreur. Il faut pas croire que lorsqu'on est promoteur d'un parti politique ou d'une association, on en devient propriétaire, j'insiste. Une association sans but lucratif, un parti politique, existe indépendamment des personnes qui l'ont créé. Et donc, je veux tranquilliser mon frère et lui dire, il faut clarifier plutôt la question sur fond de quel organe a statué sur la cessation d'appartenance de ces mouvements politiques
donc
à l'ensemble.
Donc, il faut se référer au statut de
absolument, c'est la seule boussole qui aide à la direction des associations et des partis politiques. Mmh. Autrement, cette histoire de dénomination du genre autorité morale n'ont aucun contenu, ni politique, ni juridique d'ailleurs. Parce qu'une personne morale, une autorité morale d'une association, c'est plus ou moins une tricherie politique qu'on a installé chez nous pour juste donner un peu de l'ascension à un individu qui influe sur les autres dans le cas d'une association ou d'un parti politique. Mais c'est
parce
un
que
non-sens
généralement
complètement.
Chez nous, les partis sont identifiés aux personnes. Quand on parle de tel parti, on voit telle personnalité. Donc si elle n'est pas là, donc on suppose que le parti n'est pas là aussi.
Et c'est pour cela que j'insiste pour que les personnes commencent à comprendre que lorsqu'elles mettent en place une personne morale, celle-là, elle doit fonctionner indépendamment de ses créateurs et il doit avoir un patrimoine qui ne doit pas être à confondre avec le patrimoine des personnes qui l'ont créé.
Abedi nous appelle de Kamina. Bonjour. Quelle est votre question? Abedi, vous êtes à Kamina.
Monsieur le journaliste.
Oui.
Oui, voilà ma question.
Allez-y, on vous écoute.
Le problème de doublement des noms des partis politiques, ça s'est fait à la faveur de la majorité présidentielle. Cette histoire nous a beaucoup gênés, surtout dans notre province ici. Notre province. Vous voyez l'état de l'INAPEC, ce sont les deux partis des anciens membres de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, les leaders de ces partis sont devenus dans l'opposition. Mais vous allez voir ici, localement, nous allons voir les gens de l'INADEF avec d'autres drapeaux qui sont de la majorité et les gens de l'INADEF dans l'opposition. Les gens de l'INAPEC et de Kumbwa-Kumwanza dans l'opposition et on parle encore de l'INAPEC dans le pouvoir. Alors, voyons le cas que nous avions fait aux députations provinciales. L'INAPEC a présenté les candidats aux députations provinciales par le cadre de la majorité. Aujourd'hui, l'INAPEC est devenu un parti politique de l'opposition. Qu'est-ce que sera-t-il maintenant lors des élections? Les candidats fidèles au président de l'INAPEC et les candidats qui ont démissionné de l'INAPEC sont partis de rester dans le cadre de la majorité présidentielle. Comment ces élections vont se passer? C'est ça ma première préoccupation. La deuxième préoccupation est celle-ci.
Rapidement.
Le ministère de l'Intérieur fait cette offensive-là. Et dédoublement des partis politiques pour la faveur de la majorité présidentielle. Prenons le cas de M. Kalombo, qui vient de quitter le PSNC. Et qui veut créer un peu de bif. C'est ça ma préoccupation.
Merci. Merci, Abedi. Mangilio, vous êtes à Arou. Bonjour. Et quelle est votre question?
C'est justement Mangilio depuis Magui.
Depuis Magui, quelle est votre question, Mangilio?
Voilà. Merci, jeudi, de m'avoir sélectionné après le sujet intéressant du jour. Je vais d'abord commencer par un petit témoignage. Il y avait une association ici qui évoluait chez lui, Samadji. Au fur et à mesure qu'ils évoluaient très bien, alors il arrivait quelquefois qu'il y a vraiment des mésententes entre cette association. Alors, ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, cette association s'est partagée. Alors, quand cette association s'est partagée, maintenant, il y a les autres aussi qui travaillent avec le même nom, tous les associations travaillent avec le même nom. Alors, je vais un peu poser ma question à M. l'invité. Qu'est-ce que le gouvernement, soit l'État congolais, prévoit pour au moins pallier vraiment problème à ce type d'association, peut-être qui porte le même nom, mais qui évolue dans la fienta vraiment avec le même nom. Alors, avec les partages maintenant, avec les séparations, travaille encore avec le même nom. La seconde question est vraiment de savoir quelles sont les sortes des associations courues ici en RDC. Et vraiment la dernière est de savoir quelle est la première association reconnue à République démocratique du Congo. Merci, c'était justement Manglio depuis Mag.
Bien, merci Maître Charles.
Quelle est la première association reconnue en République démocratique du Congo? Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, mais quelle est la dénomination de cette association? Non, je ne peux pas le savoir, ça c'est sûr. Il faut faire un travail de recherche au sein du ministère de la Justice qui est chargé d'octroyer la personnalité juridique aux associations sans but lucratif ou aux ONG. Alors, la question de dissidence entre les acteurs politiques ou au sein de partis politiques, je crois qu'il faut interroger les statuts qui mettent en place, qui organisent ces partis politiques. Quels sont les organes qui sont habilités à prononcer leur adhésion à la majorité présidentielle? Est-ce que ce sont les mêmes organes qui ont prononcé leur dissidence par rapport à la majorité présidentielle? Tout se trouve dans les textes et donc il faut clarifier ces questions-là pour que les individus arrêtent d'adhérer à des mouvements politiques simplement sur fond de la sympathie de la personne dont on croit qu'il a créé le parti. Et cette question d'autorité morale, qui est en fait un non-sens, comme je disais, peut tromper justement la volonté de personnes qui veulent adhérer et qui adhèrent sur fond justement de cette sympathie sans savoir exactement à quoi ils adhèrent. Et donc, il faut chaque fois, avant d'adhérer à un mouvement politique, à un parti politique, à un regroupement politique ou à une association sans but lucratif, d'interroger d'abord les statuts qui régissent ces...
Il faut prendre connaissance des statuts.
Absolument, absolument. À ce moment-là, vous vous engagez en connaissance de cause parce que si vous n'avez rien lu et que après il y a des perturbations d'ordre juridique qui sont internes et sur le fond desquelles vous n'étiez pas informé à la base, vous risquez de mal interpréter la situation. Et donc, j'en appelle à tous ceux qui appartiennent à des partis politiques ou à tous ceux qui veulent adhérer, d'être d'abord informés sur le contenu des statuts, du règlement intérieur qui existent ces statuts et même de l'arrêté d'agrément de ces partis pour être sûr que dans l'ensemble ces documents véhiculent vos convictions personnelles. Donc la question pour moi ne se trouve pas sur le plan des individus qui font dissidence, mais plutôt sur le plan des textes. Qu'est-ce que disent les textes de ces organisations, de ces partis politiques, et est-ce que ce sont les organes compétents qui ont statué et pour adhérer et pour faire dissidence. Je doute justement que ces genres de procédures soient démises dans les partis politiques ou plutôt on fait ascension des individus et non pas des mécanismes juridiques appropriés pour prévenir ces genres de conflits. Alors, le ministère de l'Intérieur, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et ces genres de pratiques un peu politiciennes, regrettables, qui essayent de faire en sorte que des individus soient opposés ou plutôt que des partis soient dédoublés
ça
crée de la confusion, ça crée tout un problème juridique. C'est dommage, aujourd'hui la justice ne fonctionne pas de manière à garantir une impartialité, une une indépendance. Mais ça, c'est une question qu'il faut porter directement devant la justice, parce que si jamais le ministre de l'Intérieur ne constate pas qu'il y a ce dédoublement, ou si c'est lui qui l'a créé par erreur ou sciemment, la justice peut corriger et considérer que le parti ou l'association qui a été agréée, la première ou le premier, c'est selon le cas, est le seul ou la seule qui doit garder la dénomination et l'utiliser en toutes circonstances et en tout état des circonstances.
Et vous avez parlé de l'antériorité.
C'est le principe de l'antériorité qui doit guider le juge pour qu'il se prononce, en considérant que l'association ou le parti qui a obtenu la première dénomination du même type est la seule qui doit justement la garder, parce que cette dénomination est un élément de son identification exclusive.
Bien, nous avons la question de M. l'abbé Jean-Marie depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Il dit, j'aimerais poser deux questions à l'invité. Quel ministère approcher pour faire agréer une ONG et quelles sont les conditions à remplir pour se faire agréer? Ça, c'est la première question.
Oui, le ministère qui est habilité à octroyer la personnalité juridique, c'est-à-dire à conférer la qualité d'acteur de droit, de personne de droit, c'est le ministère qui est en charge de la justice, à travers sa direction qui est chargée des cultes et des associations, auprès de laquelle vous déposez vos statuts, vos règlements intérieurs, vos déclarations de financement, etc., pour que justement il analyse et comprenne que vous êtes une association viable et qui vaut la peine d'être consacrée comme telle en République démocratique du Congo. Mais lorsque vous créez une association dont l'objet, dont les activités ne rentrent pas directement dans le cadre des compétences du ministère de la Justice, la loi du 20 juillet 2001 plutôt, vous oblige à passer préalablement auprès du ministère
de l'Intérieur.
Non, auprès du ministère qui a les attributions de vos compétences en tant qu'association. Si vous voulez intervenir dans le domaine social, vous irez au ministère des Affaires sociales. Si vous voulez intervenir dans le domaine médical, vous irez au ministère de la santé publique. Si vous voulez intervenir dans le domaine de l'enseignement, vous irez au ministère de l'enseignement. Ces ministères vont vous délivrer préalablement un arrêté d'agrément sur base duquel vous allez finalement aller demander votre personnalité juridique.
Bien, et sa deuxième question, si quelqu'un veut créer par exemple une école, un dispensaire, une clinique, est-ce que toutes ces entités peuvent être couvertes sous un seul document juridique? Si oui, quel ministère approcher?
Non, lorsque les attributions, les activités que vous voulez conduire ne sont pas du domaine de la justice ou des droits humains, vous allez approcher le ministre, le cabinet du ministre des attributions qui a en ses attributions votre domaine d'intervention. Et comme je l'ai dit tout de suite, vous voulez intervenir dans le domaine de l'enseignement, vous allez d'abord avoir un arrêté d'agrément du ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Et c'est sur base de cet agrément préalable que vous allez avoir une autorisation de fonctionner, une autorisation d'exister. Vous allez être demandeur ou défendeur en justice, et donc c'est sur base d'un arrêté du ministre, pris par le ministre qui a la justice dans ses attributions, qui vous donne la personnalité juridique, ça veut dire qui vous fait exister sur le plan du droit.
Et pour un parti politique, comment ça se passe?
Pour un parti politique, après que vous ayez rédigé tous les documents requis, notamment les statuts, votre programme de société, etc., vous approchez à la direction compétente du ministre, du ministère de l'Intérieur, parce que c'est au ministère de l'Intérieur qu'on acquiert le premier agrément. Alors, la personnalité juridique, ça va de soi, comme je l'ai dit tout de suite, il n'y a que le ministre qui en charge la justice qui octroie la personnalité juridique à toutes les entités qui existent dans ce pays. Évidemment, exception faite aujourd'hui de tout ce qui est entité commerciale, avec toute la réforme qui est intervenue avec le droit OADA, notre adhésion au système OADA. Lorsque vous avez tous vos documents en ordre, vous les déposez plutôt au guichet unique qui s'occupe de tout le reste.
Alors si par exemple les responsables d'un parti politique se sentent lésés par ces dédoublements, par d'autres, par des dissidents qui vont créer associée à un autre parti, portant la même appellation. Quelles sont les démarches qu'ils doivent entreprendre au niveau de la justice pour rentrer dans leur, pour être rétablis dans leurs droits?
Les actions en justice, en protection d'un eau sont prévues. Et il appartient plutôt à la personne qui se prévaut de cette action devant la justice de démontrer qu'il y a un préjudice et que ce dédoublement lui cause, de démontrer justement le lien de causalité entre l'utilisation de ce dédoublement par rapport au préjudice qu'elle a subi. Et donc il faut qu'il s'agisse évidemment, comme je le disais, des organes compétents de l'association du parti politique qui porte cette action devant la justice. Sinon, ils seront renvoyés du fait de défauts de qualité. Si c'est pas les personnes, les organes habilités par les statuts pour porter ce genre d'action.
Bien, merci à Maître Charles Mochizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, d'avoir répondu à notre invitation et bon début de semaine.
C'est moi qui vous remercie. Bon début de semaine.